as un peu évoqué ça tout à l'heure. Est-ce que tu peux rapidement revenir sur la filiation qu'il y aurait entre la salsa et le son?
Oui, alors, du point de vue orchestral, nous avons compris qu'au début du son, il n'y a pas de piano. Le piano sera ajouté à partir de 1940, disons, lorsque Arsenio va moderniser le son en ajoutant donc la contrebasse définitivement, les tambours et le piano. Ce format orchestral d'Arsenio, eh bien, c'est lui qui va influencer tout le reste de la musique cubaine dans ce format. C'est ce que j'appelle d'ailleurs Arsenio et ses disciples. Arsenio a eu plusieurs musiciens tournant dans son groupe, et quand il partira aux États-Unis en 1950-51 pour pouvoir se faire opérer des yeux, parce que c'est un âne, un mulet qui lui a donné un coup de pied au front, qui lui a pété le nerf optique. Donc il est parti aux États-Unis et là il a trouvé le fameux Castro Viejo. Le médecin lui a dit que c'était foutu pour lui. Donc ce format orchestral d'Arsenio et ses musiciens qui ont joué avec lui vont continuer à Cuba tout seul. Et c'est ce format orchestral qui va influencer la salsa et particulièrement Johnny Pacheco. Parce que c'est lorsque Johnny Pacheco va fonder son groupe en 1965 avec des trompettes que les autres vont venir après s'agglutiner. Et après aussi, on aura des trombones. Mais la filière originelle, ce n'est ni les orchestres de violon, ni les big band, c'est le format orchestral avec deux, trois trompettes, piano, contrebasse, bongo, conga. C'est ça qui va influencer ce qu'on a appelé la salsa à partir de 1967. Parce que lorsqu'on jouait des morceaux de musique à New York, que disait-on lors de l'exécution musicale ou lorsque un solo d'un instrument était arrivé à un moment d'excellence? Eh bien, on disait salsa. Parce que les Cubains ont créé cette expression pour qualifier le moment où le morceau a beaucoup, le plus de piment. Ouais. D'où le morceau Échale salsita, mets-y un peu de sauce. Et ce morceau-là existe. Donc, les gens de New York, Johnny Pacheco, on l'aime bien Johnny Pacheco parce que son père a été un opposant farouche à Trujillo, le dictateur blanc de la République dominicaine. Nous l'aimons bien. Mais, Pacheco s'étant coquiné avec les mafieux de New York, Jerry Masucci et certains juifs, qui ont fait un travail là-bas. Mais le commerce qu'ils en ont fait et le fait qu'ils n'ont pas versé de royalties à Cuba, aux musiciens cubains, eh bien, ça a créé une césure qui va perdurer. Et quand bien même, je le dis, que Cuba, dans la gadoue où elle est aujourd'hui, Cuba reprend à son compte le mot salsa, c'est quand même bizarre, pour ne pas dire autre chose. Mais il n'y a pas de salsa qui tienne. Il n'y a pas de salsa qui tienne. Dans ce qu'on appelle salsa, que trouve-t-on? On trouve très exactement un ensemble de rythmes, et aujourd'hui un seul rythme, parce que salsa c'est zouk. Hein. Quand on écoute la salsa qu'ils font, c'est un seul rythme. Hein. À l'époque où il y avait de la musique latine à New York, dans les années 70, 60, 70, 80, nous avions une musique où le rythme allait de la guajira son au guaguanco. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Absolument rien. D'ailleurs, quand vous écoutez la salsa, s'il pouvait enlever le tambour, mais de manière définitive, il y aurait. Et s'il pouvait, et ça c'est la modalisation, s'il pouvait empêcher les petits nègres malheureux portoricains de chanter pour mettre des petits mulattes et des petits blancs, il y a des cafés aussi. À telle enseigne qu'à Porto Rico, moi, Porto Rico c'est ma deuxième maison. on a été obligé dans les années 80, 90, de, ça s'était jamais fait avant, d'organiser des concours de chant pour que des jeunes puissent continuer à chanter de la musique. Mais à Porto Rico, tout le monde chantait. Porto Rico, c'est un pays de chanteurs. Vous vous rendez compte dans l'état dans lequel se trouve la musique dite latine d'aujourd'hui. Et où se trouvent aujourd'hui les Cubains. Dans quelle impasse ils se trouvent? Puisque la réalité, aujourd'hui, une Cubaine qui a été chargée de mission pour la Chambre de commerce de la Havane est venue chez moi dans les années 90. Et quand je lui ai dit, c'est une dame de plus de 60 ans, quand je lui ai dit que, excusez-moi, mais la musique que je connais de Cuba est celle que j'écoute aujourd'hui, excusez-moi de vous dire que vous avez perdu l'essentiel de votre musique, à savoir que vous n'avez plus à Cuba des paroliers. Ce qui a fait l'expansion de la musique cubaine et ce qui a fait que les gens aiment cette musique, c'est que la qualité des poèmes mis en musique. Parce que dès que vous voyez un texte de musique cubaine ou de l'espace ibéro-américain, quand vous voyez un texte, le texte s'appelle la lettra. Eh bien, à cause de la métrique poétique espagnole qui est la décima, chaque texte de Bolero, de Goracha, de Son que vous entendez, et même de la musique afro-cubaine, c'est un poème parce qu'il est écrit en décima. Et c'est peut-être ce qui fait la prééminence de cette musique ou de ces musiques sur telle ou telle. Je ne vais pas faire de comparaison.